Zoé, Show Me Down.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 3 août 2013, nos programmes pour cet après-midi. À 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Janot Dead. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89,1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le match de Luchadores que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Là, je fais la chasse au restaurant qui reste ouvert en août, hein, en fait. Hein.
Ouais,
il y a
ouais,
pas
ouais.
Beaucoup, hein.
Il y a du boulot, hein.
Ouais, le générique est toujours en travaux.
Radio FMR présente le supplément week-end.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde, supplément week-end numéro 356, le générique est toujours en travaux et c'était très difficile d'arriver à caler les voix dedans.
Les voix?
Ah oui, oui.
On entend bah, qu'une, là.
Bah oui, non mais il faut quand même caler qui le fait, quelle est la fréquence, où c'est qu'on le fait, dans quelles conditions. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end et nous sommes avec Ultimatum, avec du sport, l'équipe habituelle, mais aussi avec... quand même Benoît, bonjour,
allez, non,
il fait cette grunt et
bam.
Surtout... Il est de retour, le pauvre. Eddie Gomis, 7ème dimension, bonjour.
Bonjour à tous.
Oui, parce qu'on peut à nouveau t'associer à 7ème dimension, puisque, attention, il renaît de ses cendres.
Ouais,
bah,
il renaît par un billet sur le blog, hein, ne nous emballons pas pour
l'instant.
mais oui, il renaît, oui, on est d'accord.
Si vous pouviez expliquer ce que c'est que 7ème dimension, sinon on va pas s'en sortir.
Alors, je peux le faire ou...
Oui, vas-y, bien sûr.
Donc, 7ème dimension, c'est
ton magazine, après
c'est en gros en fait le meilleur magazine français sur le cinéma. Donc, enfin, c'est ce qu'on me dit en général, hein. Et du coup,
voilà.
Du coup, c'est édité sur la ville de Toulouse. Et c'est comme ton générique, en fait, c'est en travaux pour l'instant.
Voilà. L'émission, est, si vous avez entendu ce générique, c'est pas un hasard, puisque c'est une spéciale grosse bébête en mousse et gros robot qui tabatta.
Tabatta.
À savoir, c'est une spéciale Pacific Rim. On avait le choix.
Les rives du Pacifique, dédicace à MC Gilles qui était juste avant nous, parce que c'est le titre québécois. Les rives du Pacifique.
J'adore les Québécois. Un titre magnifique.
Oui. On vous laisse deviner un petit peu. On fait un petit cours concernant les news rapidement cette semaine. À savoir, tout le monde bave parce qu'il y a le nouveau Sherlock et surtout ce soir.
Quand tu dis tout le monde, c'est Benoît et toi, c'est ça?
Non, bah t'es, ouais, t'es
entre autres. Du souci. Et ce soir à 1h du matin, on saura donc effectivement qui est le nouveau docteur, Patin Couffin, etc. Voilà, bref. Ça c'est fait.
Il y en a qui suivent Doctor Who à part les deux hardcore là
Non.
Non, moi un peu, mais avec 4 ans de retard.
France 4 a décidé de reprendre la série. Enfin, la
depuis
deuxième
la saison des Clayston.
Non, quand même pas.
Ah,
si, depuis la saison des Clayston.
Ouais,
c'est la nouvelle série Doctor Who depuis 2005. Ils ont décidé de repartir tout ça.
Dans le désordre, comme d'hab.
Ah non, dans l'ordre.
Ah bon?
En VO, VF, double.
Non, mais je sais pas.
J'ai pas essayé.
D'accord.
Je crois qu'il y a double format, mais je crois que malheureusement, les deux premières saisons, France Télé n'a pas les masters.
Ouais.
Déjà, c'était filmé en 16:9. Ils l'ont coupé en 4 tiers qu'ils ont étiré. Et ensuite, quand France 4 est passé en 16:9, enfin, ils ont réétiré. C'est dégueulasse.
Et donc,
on applaudit le respect de l'œuvre.
Et alors, moi, j'y connais rien, mais est-ce que c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un public pour les séries fantastiques anglaises, oui, après la diffusion de Sherlock?
Oui, il y a eu une excellente interview du directeur des programmes séries de France 4 qui expliquait, ouais, que Le Visiteur du Futur, que surtout, c'est la série d'Astier, là.
Ah, HeroCorp.
HeroCorp. Pourquoi ils relancent ça? C'est qu'en fait, ils se sont rendu compte que oui, il y a des fans hardcore et que même si la série a été repiratée, ça fait des scores d'audience à faire pâlir la chaîne parlementaire.
C'est,
donc,
c'est aussi qu'ils se sont rendus compte que pour le système deuxième écran avec Twitter, Facebook et tout bazar, ils avaient de l'audience par ce biais-là. Les téléchargements plus de France 4, pour ces séries-là, dépassent tous les autres programmes qu'ils diffusent sur France 4, sur France 3 et même sur France 2.
D'accord.
En donc, même temps, qui a envie de revoir Thierry Beccaro, Boule Noire et tout ça, en plus.
Non, mais... Bien. Alors, enchaînons. C'était la fin des rubriques news, j'imagine.
Bah oui, comme ça on est. Ah non, tu voulais parler de SoFilm.
Bah ça c'est pas une news, c'est une revue de presse, mon cher producteur. Ouais. Donc SoFilm, ça c'est le numéro de l'été, donc c'est juillet-août, hein, bien sûr. Oui, voilà. Donc c'est le numéro 13. Alors numéro 12, pardon. Le SoFilm, donc avec en couverture, le regretté James Gandolfini. Dans une photo noir et blanc où il est peu engageant.
Oh, il sort de Soprano.
Voilà, ouais. Ça va être plutôt une Soprano. Donc voilà, bon, évidemment, un dossier comme est capable de faire l'équipe de SoFilm. Donc dans le New Jersey, ils sont allés s'y rendre en direct. Ils sont allés sur les lieux du tournage. Ils ont rencontré les patrons des cafés et tout qui ont accueilli le tournage aussi et qui sont des potes de Gandolfini. On a aussi des news avec des tons décalés. Voilà, dont ils sont les spécialistes. On a une interview, une excellente interview d'Eddie Mitchell en fin de magazine qui vaut son pesant de cacahuètes aussi. Une interview de John Landis, une rétro-carrière. Voilà, John Landis, Loup-Garou de Londres, Blues Brothers, c'est tout. Des photos inédites. Alors, je vais retrouver la photo. Des photos inédites hein, sur des.
Ah ouais, elle est pas mal. Hein.
Voilà. La photo. Un dossier sur l'amour immodéré pour le cinéma par Kim Jong-il.
Ah bah tiens, on va en reparler tout à l'heure.
Voilà, on a aussi un dossier sur Mads Mikkelsen, justement, comment il est. Alors, c'est marrant parce que des anecdotes, c'est que ses collaborateurs sur les tournages, ils disent, alors par contre, si vous voulez lui demander les films marquants, les acteurs, les réalisateurs et tout, il connaît rien du tout. Il s'en fout complètement, par contre, vous le branchez sport. Alors là, par contre, voilà. Et le mec, il disait que, alors c'est un bon vivant, le mec, alors il disait s'il peut encore s'autoriser aujourd'hui à boire de la bière et à fumer des clopes, en fait, c'est parce que c'est un très très grand sportif. Et en fait, il faisait beaucoup de sport pour encore s'autoriser ses petits péchés mignons. Donc c'est excellent. Voilà, il y a que des articles comme ça. Un reportage sur le vrai gang qui a inspiré le nouveau film de Michael Bay, No Pain, No Gain. Voilà, donc le vrai gang qui n'était pas du tout des enfants de cœur. Et aussi un reportage, moi ça m'a vraiment scotché. Un gars qui a suivi Barack Obama pendant tout son mandat, et il raconte de l'intérieur comment est le vrai Obama et son rapport à la caméra, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. SoFilm numéro 12, numéro d'été consacré à James Gandolfini, 4,50€ en kiosque, et je crois que ça va intéresser du sport.
Ouais,
voilà.
Du sang.
Oui.
Alors on l'a loupé la semaine dernière, mais on va pas le louper cette semaine. Hein. C'est le décès de Dennis Farina.
Oui.
Hein, parce que Dennis Farina, c'est quand même un des acteurs emblématiques, surtout d'un des metteurs en scène que nous on aime bien tous ici autour de cette table. Même le mec qui est derrière la console, c'est Michael Mann.
Alors,
ouais, je m'étais trompé.
Alors, Eddie, tu veux de perfusion, tu veux ça va ça.
Alors,
va,
non mais ça va. Ça va.
Tout d'abord, Dennis Farina, donc dead le 23 juillet dernier, donc il avait 69 ans, il est né en 44, pardon. Famille relativement aisée, son papa était toubib, sa maman était employée. Bon, il a quand même 3 frères, 3 sœurs. Commence sa carrière, il rentre dans l'armée en fait assez jeune, il fait 3 ans d'armée, donc on est dans la période des années 60, mais avant le début de la vraie guerre du Vietnam, donc il y échappe un petit peu, puis quand il a fait ses 3 ans, il s'engage dans la police et il va faire 18 ans à la police de Chicago, surtout comme inspecteur au service des cambriolages. Et c'est à l'occasion de son boulot justement en tant qu'inspecteur à Chicago, il fait la rencontre de Michael Mann, qui lui demande d'être consultant sur certains trucs qu'il va faire, certaines séries télé qu'il va faire dans les années 70 et début des années 80. Et Denis Farina donc arrête sa carrière après 18 ans de bons et loyaux services chez les Cops de Chicago en 85. Et là, il peut se... il avait déjà commencé, il avait déjà figuré dans certains films de Michael Mann où il y a des petits rôles dans le premier film de Michael Mann en 80. Il a un moyen rôle, on va dire, mais enfin bon, c'est pas grand chose. Il s'essaye parallèlement à ça à une carrière théâtrale. Il prend des cours et des trucs comme ça quand il est encore en active. Et ça lui permet justement en 85 d'arriver et de savoir un petit peu ce qu'il fait. Alors il apparaît également dans la série Miami Vice, dans 3 épisodes, il joue le rôle du mafieux Lombard. Et c'est surtout dans la série que Michael Mann tourne après et sort après Miami Vice, à savoir Crime Story, que là il a un rôle récurrent, plus d'une quarantaine d'épisodes, dans le rôle de l'inspecteur Mike Torello face à Ray Lucas, interprété par Anthony Denison. C'est notable parce que on l'a vu dans pas mal de films, dans des gros films, Get Shorty, des trucs comme ça et tout, il a des rôles assez conséquents, bien sûr toujours un petit peu connoté, typé, on va dire, hein, c'est normal, keuf ou mafioso, c'est normal, vu un petit peu sa tronche, sa démarche. Puis son papa est quand même originaire de Sicile, directement, de la ville de Villalba, quoi. Donc faut pas déconner avec ces choses-là.
J'arrive plus à voir son visage, je vais faire un peu un Google.
Tu l'as là, quoi,
Il a une très jolie moustache.
Alors, à noter que s'il a une bonne carrière cinématographique et même beaucoup d'apparitions dans beaucoup de séries qui sont assez connues, en fait, il n'y a que 2 séries où il a eu vraiment un rôle récurrent, intéressant et qui a tenu, hein, c'est-à-dire déjà Crime Story que j'ai cité avant, plus d'une quarantaine d'épisodes, également dans le rôle de l'inspecteur Joe Fontana. Joe Fontana dans la série Law and Order, hein, c'est Kyle Wolf qui lui a offert le rôle en remplacement de Jerry Orbach qui était décédé un petit peu de temps auparavant. Et alors, il a quand même fait 46 épisodes de 3 saisons, ce qui est quand même. 2 saisons, quoi, en fait, ce qui est pas mal. Sympa, mais il s'est arrêté comme ça, puis il s'est barré, on n'a pas trop su pourquoi. Que dire de plus, c'est un bon acteur. Il a aussi travaillé au théâtre à Chicago, il a également joué dans des pièces mises en scène par Terry Kinney, entre autres. Terry Kinney, c'est le McManus dans la série Oz, Terry Kinney, voilà. Donc, on voit que c'est un petit monde comme ça, un petit cercle et tout, de gens qui se connaissent et tout, et qui travaillent entre eux. Je suis sûr que Ernie Hudson doit faire partie du lot. Oui. Bref, 69 balais, alors moi, je me suis toujours demandé, il y a un truc que je me suis demandé, c'est pourquoi il avait arrêté sa carrière après 18 ans de police, parce que il me semblait qu'il fallait faire 20 ans pour avoir une retraite sûre, assurée, quoi, en tant que flic. Pour être payé, quoi, donc, alors que 18 ans, non, c'était 20 ans la date limite, mais peut-être que ces années d'armée sont comptées dedans, quoi. C'est pour ça que ça lui a permis, justement, de s'arrêter en 85 tranquille, de se consacrer entièrement à son autre carrière, qui est le cinéma et le théâtre. Rest in peace, Mr. Denis Farina.
C'est le super week-end, et on va entamer notre spécial, mais on fait une petite coupure musicale.
Allez.
Spécial Pacific Rim.
Ouais.
Joli dragon. Où
Un week-end spécial gros bordel aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce que ils sortent de la fosse de fin fond du Pacifique pour attaquer Manhattan. Non, ça c'était avec un autre réalisateur.
Il y a un truc qui est pas ça là.
Bah oui, bah j'ai dit est-ce qu'on enchaîne ? Il a dit oui.
Non, il a dit on enchaîne avec Batman.
Ah bah trop tard, maintenant
Batman,
on lance le dossier là.
Batman.
Non, on fait le dossier.
Ah bon, bah c'est.
On fera la semaine prochaine.
Mince, j'avais dit, vous voulez parler de Man of Steel. Je l'ai dit,
On avait dit qu'on ferait tout pour ne pas aborder de sujet comics cette semaine.
Ah, belle couverture. Bon, alors...
Non, mais t'as raison, Thomas, de dire que Man of Steel est un très bon film.
Merde, sans nom. Pacific Rim, donc. Film de Guillermo del Toro, donc, qui est sorti 12 juillet, c'est ça ?
C'est ça.
12 juillet dernier. Certains ici se sont précipités à l'avant-première. Avant-première. Bon, moi, c'était 3 jours après. Est-ce qu'il y a des aficionados de Del Toro ou de grosses bébêtes ici?
Non, moi, j'ai attendu sur vente soldée un ticket au rabais.
Ok. Alors, Pacific Rim. Donc, film de Guillermo del Toro. On va déjà commencer par dire qui est le bonhomme avant de s'attaquer au film. Guillermo del Toro, cinéaste mexicain, né à Guadalajara, 1964.
Oui.
Pendant ce temps, comme je meuble, je retrouve ma fiche. Voilà. Donc, je me suis inspiré d'un texte de notre cher ami Rafi Djoumi pour faire le.
Mais je pensais que tu pouvais écrire tes propres textes.
Non, mais pour la naissance et tout, je savais pas. Alors, il réalise une dizaine de courts-métrages fantastiques, puis il fonde son studio d'effets spéciaux, Necropia. Et collabore avec son ami, alors comme quoi le monde est petit, puisque quand on est pote d'enfance, on se retrouve après aux manettes de gros films hollywoodiens, avec son pote Alfonso Cuarón.
Oui.
Donc Harry Potter 3, Les Fils de l'Homme, le nouveau film avec Bullock et Clooney.
Tu as oublié un truc important, monsieur, je pompe les textes sur Rafik Djoumi. C'est quoi? Que avant de faire des courts-métrages, donc il faisait des effets spéciaux, et c'était l'élève de Dick Smith. Et c'est pas n'importe qui, Dick Smith.
C'est celui qui a fait les Star Wars,
voilà,
et tout ça.
Et qui a fait l'Exorciste, etc. Et donc c'est quand même un bonhomme qui vient des effets spéciaux à la base. Voilà,
petite parenthèse. Il a fondé son studio d'effets spéciaux Necropia.
Oui, mais Dick Smith, tu l'as pas dit.
Non, je l'ai pas dit, Dick Smith.
Voilà.
C'est vrai. Non, on peut pas tout dire non plus.
Bah, alors, si, ça il faut le dire.
Ça il faut le dire.
Ok, donc il collabore avec Cuarón sur des séries gothiques pour la télé mexicaine. Et son premier film, Chronos, qui est remarqué par la critique et qui a un petit succès quand même, Chronos. De 93, donc un film vampire moderne avec Ron Perlman qui deviendra par la suite son acteur fétiche, permet de qu'il se remarque. Et donc il lui vaut un contrat qui normalement lui ouvrirait les portes d'Hollywood, mais chez Miramax, donc Harvey Sycerhands, dont il sort dépressif et lessivé, puisque son film Mimic, 97, avec Mira Sorvino, est remonté malgré lui et avec des séquences tournées par d'autres. Sans son accord, bien sûr.
Je savais pas ça, qu'ils avaient tourné des séquences avec d'autres
réels. Si, je crois qu'ils ont modifié la fin, même, il me semble, quoi, truc comme ça. Quoi.
Enfin, bon.
D'accord.
Miramax, comme d'hab. Mais je crois. C'est pas pendant le tournage de ce film où son père a eu des problèmes ?
Ouais, il y a une histoire, oui, avec un
enlèvement. Son père a été kidnappé parce que ça a commencé à faire le tour au Mexique, effectivement. Ouais. Il y avait un réalisateur de la région budget. Son père a été kidnappé. Pendant la production du film, il a payé 2 fois la rançon et n'était pas sûr de le revoir vivant. En même temps, il était obligé de tenir à la fois la production et à la fois le plateau. Mm-hmm. Et je crois que ça vient aussi de ça. Hein. D'ailleurs, il a dit qu'il a fui le Mexique justement à cause de ses emmerdes.
Tout après aux États-Unis.
Donc, un tournage très sain. Cette notoriété naissante lui vaut aussi d'être produit par Almodovar pour Les Chines du Diable 2001 avec Marisa Paredes et Eduardo Noliga. Voilà. Sa carrière alterne donc ensuite les films populaires, donc Blade 2, Hellboy 1 et 2, Les 5 légendes, puisqu'il a...
Petite parenthèse sur cette période que tout le monde a vécu quand même. C'est-à-dire que la même année,
que tout le monde
est sorti Les Chines du Diable et Blade 2,
oui.
et dans la même année, par le même réalisateur, on se prend 2 claques dans la figure dans 2 genres complètement différents et opposés.
Oui.
ce qui en faisait un des cinéastes les plus prometteurs. Oui. Parce que il avait un prisme assez large, et c'est vrai que les films du diable, bon, c'est tout un pan du cinéma classique, fantastique, c'était revisité. Et de l'autre côté, t'as Blade 2, où tu te prends vraiment une claque dans la figure, dans le sens où tu as vraiment un film comic book, où t'as l'impression que les cases s'animent. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'était juste avant le tournage des Matrix Reloaded, des Matrix Revolution, et ça mettait la barre assez haut.
Oui, après, avec quelques fautes de goût, notamment le combat des ninjas au début, qui était un peu moisi.
T'as toujours des fautes de goût.
Mais sinon, il y a le baston final.
C'était du jamais vu à l'époque, quand même. Hein. Ça, il faut s'en souvenir. Hein.
Ah ben, à ce niveau-là de...
Le plan d'intro, c'était la première fois qu'on avait des doublures numériques. Oui. Avant Spider-Man sortait après, et t'as quand même des plans de fou furieux dans la scène d'intro,
oui,
hein, quand il saute.
La scène d'intro quand il saute avec sa moto.
Voilà, quand il saute avec sa moto.
Il crame les vampires.
Ouais, oui, non, je crois qu'il est laissé derrière, là.
Enfin bref,
voilà.
Non, donc, mais à ce stade, il n'y a
donc,
plus besoin.
Donc bref, des petites réussites. Del Toro, de toute façon, sera associé pendant longtemps à la franchise Hellboy, puisqu'on attend toujours que les fonds soient débloqués pour un hypothétique numéro 3. Hellboy, donc on le voit avec Blade 2, Hellboy 2, Del Toro qui n'est jamais aussi à l'aise que dans des suites. Donc on va voir aussi s'il y a une suite à Pacific Rim. Donc il a produit aussi les 5 légendes. Il a fait aussi du film d'auteur très poétique avec Labyrinthe de Pan, magnifique. Il a aussi parrainé d'autres talents comme L'Orphelinat. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a touché un peu à tout et qui est aussi estampillé dans la case des cinéastes geeks aujourd'hui, avec Kevin Smith, Roger Avary, par exemple, et plus Cocorico Christophe Gans, puisqu'ils se connaissent bien les deux. Donc voilà. Il a le projet d'adapter depuis quelques temps Les Montagnes Hallucinées, mais ça s'est jamais fait d'après Lovecraft.
De toute façon, là, pour relancer par rapport à Pacific Rim, on récupère un cinéaste qui a été d'échec en échec depuis 5 ans, quand même. Hein.
Donc, oui, depuis Hellboy 2, oui.
Ouais, depuis Hellboy 2. Donc, t'as le côté je vais réaliser Bilbo le Hobbit en diptyque de deux films, qui se fait pas, où il est quand même crédité scénariste. Après, il se rabat sur Les Montagnes Hallucinées avec du gratin, hein, puisqu'on a Tom Cruise, en acteur principal, t'avais James Cameron à la prod, etc. Budget 120 millions de dollars, ça tombe à l'eau. Et on le voit débarquer du coup avec cette ovni.
Voilà, donc tu as parlé de Bilbo le Hobbit, on va plus en parler puisque c'était la crise qui touchait la MGM qui a fait repousser le tournage, voilà. Et donc il revient avec Pacific Rim, donc un film avec des grosses bébêtes qui est son premier budget mastodonte. Hein,
88 millions en production pure.
190, ouais, c'est ça.
Non, 88 millions selon Box Office Mojo. Ah, j'ai les chiffres et tout, avec le chiffrage post par post. Sur Twitter, là, de suite.
Ouais, ouais. Moi, je te dis que c'est 190 millions le budget, pas ce qu'il a rapporté.
Ah, pardon, excuse-moi. Oui, c'était ce qu'il a rapporté sur le marché domestique.
Voilà.
190 millions, bon, d'accord, ok.
Voilà, voilà, donc, Pacific Rim.
Je me suis planté de colonne, ça arrive.
C'est pas grave.
Alors, réalisez donc... alors, attends, je regarde le plan pour savoir si je suis à jour. Oui, oui, c'est ça. Alors, la critique du film, Pacific Rim... oui, alors, ceux qui n'ont pas participé, vous avez des trucs à dire sur Guillermo del Toro avant d'attaquer Pacific Rim, non ? Bon. Donc, un film avec une partie du casting plutôt méconnue, une autre partie du casting plutôt connue. Donc, Charlie Hunnam dans le rôle principal, Idris Elba, donc le marshal, le gros chef des pilotes de Jaeger. Idris Elba, qui a gagné du muscle et du charisme. Rinko Kikuchi, Ron Perlman, bon, bien, c'est obligé. Burn Gorman, qui parlera certainement aux fans de Torchwood.
Et fabuleux.
Et Clifton Collins Jr., le latino de toutes les séries, les bonnes prods, on l'avait notamment.
Moi, vous avez
Oz.
Vu ma gueule.
Voilà. Alors, le pitch du film. Dans le futur, des monstres géants surgis d'une faille alien dans les profondeurs de l'océan Pacifique, foutent une dérouillée à nos civilisations. Petit à petit, pour anéantir ces monstres, l'humanité comprend qu'elle doit fabriquer ses propres monstres. Des créatures de métal appelées Jaeger, aussi grandes que les créatures aliens, les Kaiju. Les Jaeger ont besoin de pilotes pour avancer, chaque membre gérant un hémisphère du mecha. Les frères Raleigh et Yancy Beckett, c'est les deux héros, sont les deux pilotes du Jaeger américain Gypsy Danger, puisque chaque Jaeger a un petit nom en fait, et aligne les victoires comme des superstars du Super Bowl. Mais lors d'une défaite sans précédent en Alaska contre Knifehead, parce que les Kaiju aussi ont des petits noms, Yancy se fait bouffer. Ça part mal. Plusieurs années après, les Jaegers sont devenus impopulaires et rouillent dans des hangars, les humains préférant construire des murs pour repousser les kaijus.
C'est Bouygues qui remportait le marché.
Voilà. Les anciennes gloires, brisées, mal rasées, en haillons, au fin fond de carcasses rouillées, vont-elles reprendre du service ? C'est là qu'intervient Idriss Elba pour aller chercher nos héros, voilà, pour les convaincre de reprendre du pilotage. Ça va ?
J'ai ouais, pas pour ouais, l'instant. Il y a un peu de spoiler dedans, mais bon, en même temps, c'est sorti le 12 juillet, donc bon...
Voilà. Pas tant que ça. Ce qui m'a surpris, justement, c'est qu'il y a un univers énorme, et en fait, toute l'intro, justement, toute l'histoire, l'arrivée des monstres et tout ça, c'est expédié en quoi ?
En 5 minutes. Mais ça, c'est propre un peu aux productions japonaises qui te plantent des univers où, en fait, contrairement aux Américains où ils te disent « Alors, on part de votre civilisation et puis on va vous progressivement vous mettre dans un autre univers pour pas que vous soyez trop dépaysé. » Alors, les Japonais, en fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'ils sont habitués à créer des univers multimédia. Hein, donc, c'est le manga, le jeu vidéo, l'anime, le film.
Une certaine efficacité industrielle.
Une certaine efficacité. Et donc, ils se disent « Ah, mais rien à foutre. Nous, on vous expose notre big univers en 5 minutes. Et puis, vous vous démerdez avec ça. Vous essayez
de réfléchir
tout ça, de tout ingurgiter, et puis c'est parti.
Non, donc, mais il y a une volonté d'aller droit à l'essentiel, quoi. Parce fait, toute cette partie-là, même si c'est original entre guillemets, on l'a déjà vu, quoi. Enfin, tu vois, si c'est pour se retaper un premier film où on te pose les bases et de la compréhension, etc., oui, enfin, on s'en fout, quoi. C'est pas ce qui est vendu et c'est pas ce qu'on est venu voir, quoi, à la base. Hein.
Oui, surtout qu'en plus, il faut remplacer une chronologie sur plusieurs années.
Et puis, ça, quand tu vois ça, t'as envie d'en savoir plus, donc c'est bien, parce que ça te fait un univers étendu, donc moi, je trouve ça pas mal.
On en parlera tout à l'heure, mais en fait, en même temps que t'es sorti le film, il y a eu deux séries de comics qui sont arrivées, ça a l'air assez costaud, et on va poster tout à l'heure l'encyclopédie Pacific Rim, sur Wikia, qui est fait par des fans, mais apparemment, c'est aussi documenté par le studio derrière. Il y a un univers apparemment qui est très construit. Ça, on en parlera.
Voilà, donc, on est carrément dans le genre par excellence du film de mecha de monstres géants. Donc, le Kaiju Ega pour les monstres, le mecha movie pour les autres genres. Donc, généralement, il y a les monstres géants qui sont aussi contrecarrés par des mechas, mais ça, c'est les croisements de plusieurs genres. Ça convoque plein de licences, un peu fourre-tout. On pense au Godzilla, bien sûr, on y reviendra. Il y a aussi les Goldorak, il y a les Bioman, il y a les Transformers aussi pour la version américaine. Voilà. Donc c'est vrai que ça...
Tu l'as placé, Transformers. Hein,
je l'ai placé.
Mais il a quand même réussi à le placer. Hein.
Ouais. Mais c'est vrai qu'en off, tu avais commencé à parler Michael Bay, on était obligé de... Voilà. Donc,
et bang.
Un film donc qui est un hommage assumé de Del Toro au Kaiju Ega, donc le film de monstres géants japonais. Est-ce qu'il y en a qui sont férus de ce genre de film ? À part pour le second degré ?
Oui.
Cette pile m'inquiète un peu.
Oui, alors j'ai amené ma pile de VHS HK qui brille, donc on peut voir...
Attention ! Non, ce n'est pas une distorsion de votre de votre appareil auditif, ni une rediffusion. Il a bien parlé en trois lettres des termes VHS. Alors, pour ceux qui ont moins de 35 ans, je rappelle que VHS est une espèce de grosse biscotte noire.
Putain, c'est vrai, il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est, putain.
C'est à peu près le format de trois iPad mini empilés, tu vois, dans un bloc. C'est très fragile et ça enregistre au mieux 4 heures de film. Voilà.
Donc oui, voilà, donc
c'était une bonne pile
de Kaiju Ega japonais édité par notre cher éditeur préféré de films asiatiques qui s'appelle HK Video. Yes. Alors le film, le Kaiju Ega, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà la pierre angulaire, même si on verra après que c'est pas vraiment la pierre angulaire.
Non.
Mais la pierre angulaire, c'est
la maquette.
C'est le Godzilla d'Ichiro Honda de 54.
Inoshiro.
Alors,
non, Ichiro.
Alors, normalement, c'est Inoshiro, mais va savoir pourquoi.
Merci
dans
du sport.
Toute ma, dans toute ma documentation.
Il raconte n'importe quoi,
non,
putain.
Non, mais
il a raccourci son nom.
Non, c'est vraiment Inoshiro Honda. Sauf que maintenant, quand tu cherches Godzilla, il est crédité en tant que Ichiro Honda partout. Donc, c'est comme le régime communiste, en fait. C'est cette. Il supprime des trucs que tu veux pas voir dans les vidéos officielles.
Donc, je rappelle aux plus jeunes d'entre nous que la VHS, on mettait le nom sur le côté et ça faisait un petit peu long.
C'était vendu avec des autocollants.
Ouais. De plusieurs tailles.
De plusieurs tailles.
pour la jaquette et pour la cassette.
Oui, et d'ailleurs, tu pouvais même faire
pour
tes,
la tranche
tes propres jaquettes au stylo feutre avec des stylos.
Ouais.
J'ai jeté d'ailleurs récemment toute ma collection de jaquettes
de
faites à la main.
Spécial VHS.
Ouais, voilà.
On n'est pas là pour suivre les films.
Voilà. Donc, le Kaiji Wega, donc Ichiro Honda, puisque c'est son nouveau nom. 54, donc c'est l'histoire de Godzilla, un dinosaure sommeillant dans les profondeurs de l'océan, réveillé par les bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki.
Ah, je pensais que c'était les nôtres, mais bon. Ah non,
les nôtres, c'est les essais de Mururoa dans le remake américain.
Non, on
ne parlait
pas du film de Roland Emmerich.
Si, on est obligé. Alors, donc Godzilla de 54 de Inoshiro Honda, donc voilà, qui est la pierre angulaire, ça a tellement bien marché que pendant des années, il y aura un voire plusieurs films de Kaiju Ega qui sont sortis au Japon. Le retour de Godzilla de Motoyoshi Oda 55, 56, Godzilla King of the Monsters, Rodan 56, 57, Prisonnière des Martiens, Mothra, King Kong contre Godzilla. Et oui, il y a les crossovers.
C'est ça qui est bien.
Voilà, King Kong 33, donc officieusement premier kaiju de l'histoire 1933, oui. Réalisé par
lequel
le King Kong de 33.
Bah par Chutzak et Cooper.
Et les noms complets?
Ernest Chutzak et
Ouais, non, mais c'est ça, mais
ouais,
c'est
bon, t'avais plus, ça va. Marianne C. Cooper. Voilà.
Bon, je suis pas d'accord. Je pense que le plus vieux kaiju, c'est un kaiju humoristique joué sur scène en live. Ah. C'était l'auteur tout simplement de Little Nemo qui faisait de l'animation et c'est le premier film d'animation. Et il faisait une démo avec un dinosaure qui devient
on
fou.
On a eu son lot et puis bon, on pourrait même dire à la limite hein, que le personnage principal de Metropolis est un petit peu un monstre mécanique aussi.
Et puis dans les grottes, les grottes préhistoriques, les petits hommes ils étaient tout petits par rapport aux grosses bébêtes. Donc c'était les premiers cajous aussi.
Oui.
Voilà. Mais eux ils étaient pas en mousse.
Voilà, donc, alors c'est vrai qu'on a commencé à avoir des titres un peu farfelus, donc King Kong contre Godzilla, ensuite il y a eu d'autres créatures, Mothra, Ghidra, Gamera, Frankenstein versus Baragon, Invasion Planet X.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu ça tout à l'heure, la Frankenstein versus...
Mais oui, Frankenstein a combattu.
Il est en quelle taille, Frankenstein?
Mais on s'en fout, il est contre Godzilla.
On sait juste une chose, qu'il devait payer ses impôts.
Voilà, on a aussi Godzilla, Ebira et Mothra, duel dans les mers du sud, la guerre des monstres, le fils de Godzilla, la revanche de King Kong, les envahisseurs attaquent, Godzilla contre Mechagodzilla, Mechagodzilla contre-attaque. Et oui, ça en fait des films à voir.
Petite parenthèse, ça me fait penser à un truc, parce que là on est tous sur le fait que Guillermo del Toro, il remet le Kaiju Ega au devant de la scène, mais une firme comme The Asylum, qui fait des méga sharks ou des trucs comme ça chaque année,
est-ce que c'est considéré comme des kaijus?
Oui, mais il n'y a pas de maquette à piétiner, tout le budget est passé dans le costume et dans les boobs.
Les méga sharks contre Giant Octopus, c'est du numérique ou c'est du gars en costume?
C'est du numérique. Il y a même Flying Mega Shark.
Un Flying Mega Shark.
Oh,
d'accord.
Enfin bref, ouais, petite parenthèse.
Donc, alors, bon, on va arriver au truc qui blesse. 98, Godzilla, remake américain de Roland Emmerich.
Godzilla est pas content parce qu'il y a eu des essais à Mururoa. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers la première ville la plus proche.
Ben voilà, New York.
C'est trois quarts sur la planète.
Pour la géographie, je crois qu'il faut qu'il revoie quand même.
Alors, pour la petite anecdote, un truc très rigolo. En 2004 sort Godzilla Final Wars, qui est un film convoquant tout le bestiaire du Kaiju Ega, un film hommage par l'auteur de Versus, Ryuhei Kitamura. Et il y a dedans ce film une baston parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans l'histoire Godzilla à la base est un méchant mais ensuite deviendra un gentil parce qu'il a été adopté dans le folklore japonais.
On appelle ça un anti-héros.
Voilà. Donc là, en l'occurrence, donc c'est l'histoire d'aliens qui veulent ressusciter tous les monstres qui peuplent la Terre pour buter les humains. Sauf que Godzilla...
Il voulait faire une partie sur la PS3 qui venait de sortir.
Sauf que Godzilla, ils peuvent pas le manipuler parce que c'est Godzilla. Et donc Godzilla va foutre.
Elle est très bien l'explication. Ils peuvent pas le manipuler parce que c'est Godzilla.
Et oui. Alors c'est Godzilla génial. Est tellement fort...
Ah mince, c'est Godzilla. Ah oui, effectivement.
Et donc Godzilla, tel un beat'em all dans Double Dragon, eh bien, il va foutre la dérouillée à tous les autres monstres. Sauf que chaque duel contre les autres monstres, c'est une baston normale. Et quand il affronte, il appelle pas Godzilla, parce qu'en fait, tu vois, le monstre de Roland Emmerich dans ce film, qui est numérique, tu vois, trop mal fait et tout, parce qu'ils ont récupéré la mèche et tout. Mm-hmm. Et en fait, il le bat d'un coup de queue. Tiens.
D'accord, ouais, il balaye quoi.
Ouais, il le balaye alors que les autres c'est duel au poing et tout. Et puis là, il y a le Godzilla américain. Et puis tiens, prends ma queue, allez, dégage. Donc c'est assez rigolo, c'est la
j'ai une intervention en fait sur le Twitter de Corentin qui était déjà venu.
Oui.
Qui m'a dit que j'oublie de parler de Sharknado, la dernière production à Asylum, donc c'est des requins dans des tornades en fait.
Oui, mais bon.
Oui, mais elle a été diffusée le 17 juillet dernier sur Syfy et il la multi-rediffuse chaque fois qu'il la rediffuse. C'est-à-dire à peu près tous les 3 soirs il la rediffuse. Chaque fois qu'il la rediffuse, il y a 500 000 personnes de plus qui regardent.
Et comment
ils sont à 5 millions de spectateurs.
Et comment tu es au courant de Sharknado, toi? C'est pas le jour où il y a Top Gear? Voilà.
Bah, disons que.
Bah, quoi, c'est
des multi-rediffs sur Top Gear.
Allez, alors sinon, bah oui, il faut mentionner aussi 2008 Cloverfield de Matrix. Et il y a un remake américain à nouveau en 2014 qui sortira.
Oui.
Godzilla de Gareth Edwards avec Bryan Cranston.
Est-ce que vous avez vu les visuels qu'ils ont publiés là, sur les affiches au Comic-Con?
Non, c'est de la radio, tu sais.
Ça a l'air vachement bien. Ils ont vraiment respecté le design original de la créature. Et on peut voir un teaser d'ailleurs hein, de la créature qui traverse un building.
Au premier degré, donc ça a l'air vachement bien, vraiment.
Et Thomas, tu ne parles pas du dessin animé?
Parce qu'il y a eu un...
Bien vu.
Non, c'est pas moi, c'est Corentin encore.
Oui, non, mais moi aussi, je viens de l'avoir.
Non, non, en fait, le dessin animé Godzilla, c'était par les mêmes mecs qui avaient fait Men in Black. Et en fait, c'était censé être la suite du film du premier remake américain de Godzilla. Moi, j'aimais bien le graphisme de ces gens-là, donc du coup, j'avais suivi, mais c'est une suite, quoi. J'ai un peu de mal.
Merci pour cet avis hautement autorisé.
C'était américanisé, non?
Godzilla vivait sous New York, sous Manhattan, et en fait, c'était le professeur du
Tatopoulos. J'ai retenu le nom.
Toujours en fait, ce problème, tu sais, de caïman dans les égouts.
Voilà. En fait, il avait récupéré un œuf de Godzilla à la fin du film. Il récupère un œuf de Godzilla, l'œuf éclos et prend le professeur pour son. Pour
maman!
Son papa!
Maman,
voilà.
Maman!
Maman, papa. Et en fait, à partir de là, ils enchaînent en fait le face-à-face Godzilla contre toute une série de monstres aussi délurés les uns que les autres. Ça peut être des
micro-bien. parce qu'à la fin la end scène de Godzilla, c'est qu'il y avait une papate qui sortait d'un œuf qui avait survécu le stadium.
Non,
et c'est là qu'on avait eu peur parce qu'on s'est dit on va avoir une suite et on l'a jamais eu.
Heureusement.
En fait ils l'ont fait avec le dessin animé.
Oui, mais c'est pas grave, c'est comme s'il avait pas fait.
D'un autre côté, je voyais mal faire une suite comme ça avec un œuf de King Kong, mais bon. Avis personnel.
Et tu sais pas ce qu'il nous réserve, hein. Honnêtement, t'en sais rien.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a le rubis.
Donc en gros, si amis auditeurs, vous voulez parfaire votre culture de Godzilla, vous pouvez vous les procurer. Voilà, Godzilla a commencé peut-être par le premier, le film noir et blanc de 54. Alors généralement, pourquoi les gens aiment ça? C'est parce que c'est un gars en costume qui piétine des maquettes super bien faites. En balançant un souffle atomique en fait par-dessus avec de la fumée et avec des japonais qui crient partout en disant oh là là c'est horrible et puis à la fin ils pètent la gueule. Voilà, c'est à peu près auparavant on voit qu'il y a des avions qui se font balancer des missiles, ça marche pas, et puis Godzilla est trop fort, et puis voilà, après il y a d'autres bébêtes, mais ça il faut aimer aussi les Kamen Rider, les Sentai, avoir des bébêtes un peu partout. Petite coupure, tu vas me mettre le score principal du film Pacific Rim et ensuite on reparle du film de Guillermo del Toro.
Et oui, parce qu'on n'a pas fait la critique encore.
Je crois qu'on l'a un peu trop entendu ce thème.
We'll be right back.
Sur 89.1, c'est le supplément week-end numéro 356, spécial Pacific Rim. Là, le score de Ramin Djawani, repris par et joué par Tom Morello à la guitare. Et franchement, pendant les 2h51 du film,
un peu moins, mais c'est vrai que oui, il revient pas mal, il revient énormément de fois. Alors, Tom Morello, c'est le guitariste de Rage Against the Machine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, alors maintenant on va parler du film, le temps que l'équipe se remette au complet autour des micros. Alors, on a commencé à parler de l'intro tout à l'heure. Entre-temps, on a dit que le film était un hommage au Kaiju Ega. On a un peu défini qu'est-ce que c'était le genre, que c'était des gens en costume, etc. Alors, pour le design des monstres, Del Toro avait donné comme consigne que les créatures soient suffisamment humanoïdes pour qu'on imagine qu'il y ait quelqu'un qui enfile un costume derrière. J'avais vu ça aussi.
Tu veux dire les Jaggers ou les monstres?
Les monstres. Ouais. Pour respecter un peu
qui a dit ça?
Del Toro.
Ah ouais.
Je reconnais que sur les monstres j'ai un peu de mal de voir le côté humanoïde.
Non, pas le côté. En tout cas, que ça puisse être enfilé par quelqu'un.
Oui, l'hommage.
Ah oui. Voilà.
Ouais. C'est peut-être avec. Il y en a un à un moment donné, j'ai plus son nom, hein, le Kaiju, celui qui est un espèce de bide, on dirait qu'il a bu de la bière ou quoi.
Ah oui.
Ouais, celui-là, il était assez rigolo, oui. Mais...
Ouais. Après, c'est vrai que, bon, pour ceux qui connaissent un peu la filmo de Del Toro, on sait toujours que même quand il fait des méchants, il prend toujours malin plaisir à essayer de trouver un design qui soit à la fois magnifique et terrifiant. Quand il évidemment ne les prend pas au second degré pour en faire des comiques, mais c'est vrai que on retrouve un petit peu les monstres vampires de Blade 2 qui étaient terrifiants, mais très 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 bons. Et là, c'est vrai que quand les kaiju commencent à balancer des lumières bleues, tu en prends plein les mirettes parce que tu vois quand même quelque part que c'est des belles bêtes, c'est des pas traitées à la va-vite comme beaucoup de productions.
On dit en général que le héros existe quand il y a vraiment un bon méchant décrit, enfin en face,
oui.
Quoi.
Oui, mais c'est vrai que là il y a sur le design des bêtes qui est vraiment très très.
Et d'un autre côté, un film peut être très mauvais quand il y a deux super méchants. Alien versus Predator.
Oui,
c'est ça. Ouh là là, ça relance. Ah, il a, toi, tu fais du troll là, un peu.
Hein. Oui, mais elle est pas de moi, malheureusement.
Ah. Allez. Alors, c'est vrai que le film. Le film tient sur un ticket de métro, le scénario, c'est vrai.
Oui, j'étais chronométré pendant que tu faisais le résumé, en fait.
Ouais. Avouons-le. C'est quand même un hommage. Alors, tu n'avais pas un courrier des autres directeurs à faire lire, Xavier, pour aller dans ce sens-là ?
Ah mince ! Alors, il faut l'habillage spécifique, je pense, dans ce cas-là. Il ne faut pas me prévenir au dernier moment !
Ah mon dieu. Non mais c'est vrai que le scénar, c'est vrai que ça pète pas trois pattes à un canard. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir des branches du cerveau sur le scénar.
C'est un scénario prétexte.
Tant pis, envoie le courrier de son directeur.
Alors oui, nous avons un petit mot de Monsieur Boulet via le site du Petit Oiseau au mardi après-midi qui dit « Après avoir vu Pacific Rim, je suis en mesure d'affirmer que Guillermo del Toro n'existe pas. C'est un pseudo utilisé par une classe de CM1.
Oui, » On rappelle que Boulet donc est éleveur de Tinosaurus Rex.
Oui.
Mais vas-y, je t'avais dit de préparer une réplique, puisque je t'avais donné la phrase en exclu.
Oui, je sais que tu m'avais donné la phrase en exclu, mais bon, en même temps, c'est une remarque qu'on peut faire à tous les... On peut le sortir pour Avatar, on peut le sortir pour plein de choses, hein, parce que là, il parle bien entendu du scénario, et c'est un film pop-corn, donc voilà, quand tu vas voir ce genre de film, tu fais pas une réflexion métaphysique sur le genre humain, quoi. Et en même temps, je serais tenté de répondre à Monsieur Boulet. Je suis sûr qu'il fait partie de ces spectateurs-là quand ils sont allés voir Matrix Reloaded à l'époque. Oh, la scène de l'architecte, voilà. Alors dès que dans un film d'action on va mettre des choses un peu compliquées, on gueule. Et dès qu'on met quelque chose d'un peu plus simpliste, on gueule. Donc voilà.
Ouais,
donc,
mais
c'est
lui...
un éternel débat, quoi.
Ouais, mais lui, il a une grosse voix de basse. Il gueule plus fort
mais
que toi.
Sauf que c'est vrai que quand on décrit sur des films mastodontes comme Avatar ou comme Pacific Rim. Bah même plus à plus forte échelle Avatar quand le scénario tient sur un ticket métro ou qu'il n'est pas original ou voilà n'empêche que tous les spectateurs qui ont été conquis par Avatar ont été beaucoup plus conquis que quand on ressort conquis d'un film lambda quoi.
Mais oui parce que c'est une immersion
une immersion, c'est quelque chose qui touche au plus profond et ce sont des films faits avec le cœur et donc les Antilles Man of Steel.
Et
sinon,
puis, tu vois, j'aimerais rebondir, parce qu'on a parlé de Michael Mann, c'est toujours bien de reparler de Michael Mann. Tu regardes un film comme son adaptation de Deux flics à Miami, où il fait un truc qui était complètement pas attendu, il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est du jeu de regard, c'est de l'impression. C'est comme ça que tu rentres dans
un film.
En
même temps, c'est un film, c'est ce genre de film qui est incroyablement difficile à faire. Parce qu'en fait, quand tu te coltines ce genre de postulat de départ où tu te dis, moi, le scénario, je m'en fous complètement, je fais un truc immersif où c'est du premier degré, l'aventure avec un grand A, des fois tu te plantes. Et c'est un juste milieu à trop. Qu'est-ce qu'il y a ?
Je suis juste mort de rire. Eddie, ne regarde pas Twitter, sinon on n'est pas senti.
Oui, non, mais j'ai vu qu'il y a
des. Comment t'as futur qui vient de dire ? Surtout qu'au niveau scénario, c'est quand même beaucoup mieux que Man of Steel, par exemple.
Et c'est pas grave.
Alors en tout cas, pour ce premier film, puisque c'est quand même assez rare pour être souligné, ce film n'est pas une adaptation, ce n'est pas un remake, ce n'est pas une suite, ce n'est pas un reboot non plus.
Rebirth ou un reborn ou tout ce que tu veux.
T'es en train de dire que c'est original.
C'est original.
Mais oui,
et en
c'est
plus,
original.
Ça a la prétention de lancer une franchise s'il rentre dans ses frais.
Trop cool.
Donc du coup, c'est vrai que c'était pas facile de ne pas s'empêtrer dans les méandres de on te présente l'univers et le film n'est qu'une bande-annonce géante.
Et en même temps, je vais te dire, moi quand j'avais vu la bande-annonce à l'époque, donc j'avais dit une vraie proposition de cinéma, de divertissement bien entendu. Quand j'ai vu le budget, je me suis dit mais qui c'est qui a donné 190 millions de dollars à ce mec pour faire
Alors
ça
moi
quoi
je pense que j'ai une réponse.
Tu vois, c'est totalement barjot quand même. Hein, oui, parce que tout le monde s'étonne que ça soit cassé la figure aux États-Unis, mais il y a tous les ingrédients qui font que ça ne marchera pas aux États-Unis.
Sauf que, est-ce que franchement c'était une production à méga budget qui était prévue pour les États-Unis ? Refaisons à partir de là le film. On rappelle qu'il y a un marché sur lequel il n'y a que 10 films qui sortent à l'étranger qui ont le droit de rentrer par an, c'est un budget que c'est un marché qui est énorme, qui est en pleine croissance, qui autorise les films à condition que le budget ou qu'une partie des producteurs ou qu'une partie du budget de production soit fait en local, c'est la Chine.
Mmh. Non, mais
et qu'est-ce qui se passe à Hong Kong et il a fait un très gros budget, il a fait un très bon score pour la Chine en tout
cas. Je crois que justement pratiquement l'ensemble des films à gros budget qui sont sortis en 2013 aux États-Unis sont plus ou moins cassés la gueule.
Oui, c'est vrai.
Ils ne sont pas rentrés dans leurs frais. Il n'y a pas eu de blockbuster qui vraiment super bien marché.
Condoléances, Lone Ranger, RIPD.
Toute la liste a déjà été faite par Steven Spielberg. Et il a fait une interview, il a dit c'est la fin d'une bulle. C'est la fin d'une bulle.
Donc, on disait que, donc voilà, un film simple, peut-être simpliste, mais incroyablement difficile à faire. Le bonhomme s'en est sorti. Eddie avait des réserves sur pour qui va donner autant de budget à Guillermo del Toro, qui, reconnaissons-le, même s'il s'attaque à des franchises, il a un peu divisé, mais il a quand même beaucoup satisfait les fans de Hellboy. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des films commerciaux. Parce que dans Hellboy 2 par exemple, tu as une grosse partie du film où Hellboy et l'homme aquatique sont en train de se bourrer la gueule avec des bières.
Ils boivent des bières,
en disant,
c'est cool.
On est des monstres et puis on est un peu seul et puis ils sont en train de chanter. C'est anti-commercial.
Surtout qu'apparemment, Abbé Sapien il peut pas faire pipi. Enfin, moi ça m'avait.
Et comment il fait pipi alors?
Ah ben je sais pas, je suis encore là-dessus. Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la catégorie des gens qui font pipi quand ils vont se baigner dans l'océan.
Peut-être.
À travers le.
Ouais, à travers le. Oui, oui.
J'adore les débats qui dérivent comme ça.
Oui, non, mais ça c'est une question à se poser.
Tu laves en même temps, quoi.
Alors, voilà. L'autre. Donc. Donc voilà, donc ce qu'on pouvait dire, une fois indéfectible dans l'aventure au premier degré, donc ça c'est, moi j'ai toujours plus de respect pour des gens qui font ça plutôt que des gens qui utilisent le cynisme pour faire des films on se prend pas pour de la merde, on fait des films intelligents, regardez, on des héros qui sont un peu en train de d'analyser le film dans lequel ils jouent, vous voyez, c'est un peu voilà. Ça te fait sortir du film, donc on est.
Et puis merde, c'est l'été des héros avec des couilles un peu hein, cette année. Excusez-moi de parler comme ça, mais bon, voilà, tu passes de Man of Steel, tu passes à Pacific Rim, et on va se taper Riddick en septembre, et on a Elysium, donc on a de la vraie SF.
Que de la burne.
Droit. Et c'est comme ça, point barre. Voilà. Et il n'y a pas la forteresse de la solitude, il n'y a pas le slip rouge, et on s'en fout.
Sans oublier qui casse à la fin du mois.
Et voilà, et qui casse. Qui porte bien son nom d'ailleurs.
Alors, les analogies, on avait parlé des mechas tout à l'heure. Alors, on a parlé des kaiju, les mechas, on va pas passer autant de temps dessus. Mais bon, c'est vrai que ces catégories de médium, de médias, c'est les dessins animés comme Macross, Pat Labor. Moi, toute la partie, la dérive du film, les pilotes pour piloter un Jaeger dans Pacific Rim doivent se connecter et doivent être parfaitement synchrones. Moi, ça m'a rappelé un épisode particulièrement fameux de la série Evangelion.
C'est pour ça qu'on l'a d'ailleurs.
Donc il y a deux anges en fait, ce sont comme les créatures de Pacific Rim qui tombent comme ça et puis on sait pas pourquoi. Et donc deux anges en fait attaquent en simultané et les deux pilotes, chacun dans son Eva, doivent se synchroniser au maximum. Et donc
que je remette la bande son parce qu'elle est fabuleuse. Hein, et donc ils ont trouvé le gimmick.
Oui, et donc pour ça, ils doivent se synchroniser en portant des vêtements unisexes. Donc c'est pour ça que t'as aussi le personnage principal qui est un garçon un peu coincé, voilà, qui est en juste au corps, voilà. Et ils doivent parfaitement se synchroniser leurs mouvements dans l'eau. C'est un épisode qui se passe dans l'eau. Donc voilà, il y a pas mal d'analogies à trouver entre cet épisode-là et Pacific Rim. Je soupçonne Del Toro de connaître la série. Une autre analogie qu'on pouvait faire, et ça c'est en préparant l'émission, je suis tombé un peu de ma chaise, c'est de la part d'Eddie qui a trouvé une analogie avec un film plutôt méconnu, mais quand tu l'expliques, ça devient limpide.
Oui, c'est une petite dédicace aussi pour Monsieur Corentin Futur là, qui parasite un petit peu le Twitter de l'émission. Donc oui, l'analogie, moi ça m'a frappé, je sais pas si du sport a dû le voir, c'est Bucaro Banzai.
Oui.
Et notamment les deux scientifiques, le truc de la dérive, le fait qu'ils viennent d'une dimension parallèle, ça fait beaucoup d'éléments. Et je pense que c'est vraiment une référence assumée.
Donc Bucaro Banzai, c'est un film qui est complètement space, où en fait ça commence par l'histoire d'un type qui trouve un moyen de passer à travers la matière. Comment ils font ça? Ils prennent une espèce de voiture de Formule 1.
À travers la huitième dimension.
Ils mettent un laser.
C'est important de le préciser.
Enfin, c'est un truc, t'as l'impression que c'est un peu le truc de fonceur avec. Et puis bon, c'est les années 80, hein, donc.
Avec Peter
un
Weller.
Peu Top Gun, quoi.
Avec Peter Weller.
Ah ouais, avant Robocop, quoi.
Peter Weller, il n'y avait pas d'autre acteur connu dedans.
Il y a Jeff Goldblum.
Voilà, oui, Goldblum, ouais.
Il y a Clancy Brown aussi. Et t'as dans le rôle du professeur, tain, je perds son nom à chaque fois. Je crois que c'est le mec de l'échelle de Jacob.
Ah oui, c'est John Letgo.
Voilà, c'est ça. Et donc voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça, même le procédé, mais c'est surtout les deux scientifiques hein, qui m'ont fait penser à ça, et je me suis dit, mais c'est quand même génial qu'en 2013, on ait une référence à un film comme ça, quoi.
Sinon, dans les références, Xavier avait avancé Batman et Robin.
Oui, non, mais ça, c'est pour les couleurs néon des monstres. Alors ça, j'ai jamais vu, quoi. Les monstres dont on voyait la couture au néon, comme ça, fluo, je me suis dit, bon, c'est Batman et Robin. C'est aussi, pas possible autrement.
C'est aussi pour les plans entre les jambes du robot de Batman et Robin.
Le fameux plan couille. Hein.
Voilà.
Et le téton qui ressort du truc en latex.
Tant qu'on est aux références, la voix de l'ordinateur dans Pacific Rim, c'est la voix de Portal, du jeu vidéo.
C'est Gladys.
Et surtout très flagrante au moment où justement quand ça commence à passer mal, un petit souci. Enfin la voix commence à aller dans la distorsion et tout. Ouais, et t'es là, tu te dis mais c'est génial parce que voilà, c'est en plus l'ordinateur veut être votre ami et en même temps il est très hostile. On rappelle quand même que dans le jeu, vous êtes le cobaye d'une expérience et il va tenter de vous tuer. Voilà.
Puis t'as quand même aussi, je viens d'y repenser quand je vous écoute là, que vous me parlez de ça. T'as un côté quand même série Z très assumé hein, au niveau des dialogues. Hein. Quand t'as l'autre qui dit oui, pas de problème, en fait Gypsy Danger est nucléaire. T'as toute la seule qui fait oui, forcément, Gypsy Danger est nucléaire, il va pas être parasité.
Ouais,
il est analogique
et nucléaire.
Voilà, tu le branches en RCA, tu récupères le signal.
Déjà, moi quand j'ai entendu ça, j'ai fait non, c'est une blague. Le fait de lier que ça soit analogique et nucléaire.
Ouais. Non, mais t'as le type à côté de toi, tu vois, qui vient voir, qui te fait ah ouais, c'est analogique, quoi, ils ont raison, il faut y aller, quoi.
Une question qui est complètement stupide. Jaeger, c'est une marque. C'est une marque de montre qui fait aussi des compteurs, hein, des trucs qu'on retrouve principalement dans les voitures de luxe ou dans les avions, les comptes tours et tout ce que vous voulez. Et Jaeger, c'est aussi une marque. Beaucoup moins mainstream, de connecteurs. C'est les grosses prises, vous savez, les grosses prises sphériques avec plein de plots et tout ça. Nous, à la radio, on utilise du Jaeger connectique, justement.
Alors on dit Jaeger.
C'est des Français.
On est dans le moment.
Nous,
à la radio.
Pour ceux qui nous écoutent.
Ça vient du mot allemand, chasseur.
Pour ceux qui nous écoutent en FM, effectivement, ça passe par un connecteur.
Le A avec le umlaut dessus.
Ils veulent pas te laisser parler. Moi, je t'écoute.
Pour ceux qui nous écoutent donc en FM, ça passe en fait par ce genre de prise justement.
Mais c'est intéressant que ça soit une marque de montre parce qu'on sait que Del Toro, il est vachement fasciné par l'horlogerie.
Oui, c'est pas la première fois on le retrouvait dans le labyrinthe de Pente.
Même, tout ça, c'est, oui. C'est pas mal.
On découvre des trucs pendant qu'on prépare cette émission.
Mais oui, mais c'est génial ce qui vient de sortir. Tu peux le sortir en soirée, ça.
C'est quoi, j'ai pas écouté.
Tu vois. Après, moi pour les.
Ça s'appelle une punition. Pendulum Granite, extrait de l'album In Silico. Vous écoutez FMR 89.1, il est très exactement 13h. We'll be right back.
de l'homme Granite, extrait de l'album In Silico. Ça s'excite pas mal sur le Twitter d'ailleurs.
Et les débats continuent en off.
Oui, tout à fait, puisque on nous fait remarquer qu'effectivement les Monts et Jagger le coutre. Voilà, et
bon, compris. Mais...
Ouais, moi non plus.
Non,
mais
c'est le Jagger, le coutre, je sais pas le prononcer. Voilà,
j'ai un peu de mal moi aussi, c'est Nathalie qui a balancé ça.
Jagger le coutre.
Oui, oui.
Tu comprends un truc toi?
Non, rien.
Bah, c'est la marque de montre.
Ok. Ah. Bon.
Oh là.
Donc, next.
Donc sinon, il y en a certains ici qui voulaient continuer dans les geekeries.
Dans les geekeries, c'est ça qui m'a un petit peu surpris. C'est Guillermo del Toro a annoncé qu'il ne voulait pas faire un film référentiel parce qu'on va pas copier ce que l'on connaît, etc. Mais quand on regarde bien sur l'imagerie, on a parlé. C'est surtout les références vidéoludiques qui remontent pas vraiment celles de cinéma, mais celles de jeux vidéo. On a parlé tout à l'heure de jeux vidéo comme par exemple Batman et Robin. Non, j'appelle pas ça un film. Mais après, il y a Portal effectivement, mais il y a aussi pour la scène donc de la gamine dans le Tokyo dévasté, les coups en fait de sirènes de sécurité civile qui font beaucoup penser à Silent Hill parce que c'est une ambiance brumeuse. Il n'y aurait pas ça. On n'aurait peut-être pas immédiatement pensé, mais là, la neige, l'ambiance brumeuse, avec ça, c'est clair.
Bon, et puis après, même la progression, c'est un jeu vidéo, quoi. Oui. Les monstres de catégorie 3, 4, 5, enfin voilà, c'est des niveaux, quoi, tout simplement.
Puis chaque Jaeger qui a un coup spécial, l'un qui lance des missiles, l'autre qui a un sabre qui te sort derrière les fagots quand t'étais pas au courant.
Arrête, c'était très bien le sabre.
Mais j'ai jamais dit que c'était pas bien. J'ai trouvé ça génial, moi aussi.
Non, moi, c'est vrai que les références, moi, pour les mechas, c'est vrai qu'on trouve pas mal de mechas dans le monde vidéoludique. Et disons que le Jagger principal, ça ressemble vraiment, au niveau du casque, du physique, on dirait le personnage de Halo, avec la visière, avec les choses comme ça.
De référence à Nabila, s'il vous plaît.
Non. Après le côté monstres qui sont exactement identiques au niveau ADN, qui mutent et des trucs comme ça, ça m'a fait plutôt penser aux Zergs dans StarCraft, des monstres dans le fait du portail. Bon, on va rester sur Portal 2, mais en fait c'est Half-Life. Dans Half-Life, au bout d'un moment, pour empêcher l'invasion, Gordon passe de l'autre côté du portail, fait péter un truc de l'autre côté et revient.
Ça, après, c'est aussi une grosse.
On n'aurait pas spoilé là.
Ça, c'est vrai que c'est aussi une grosse référence au cinéma de science-fiction en général, parce qu'on avait, excusez-moi, mais de parler de Wednesday, mais on avait ça aussi. On avait ça aussi dans Oblivion. Bon, voilà.
Non, mais si tu veux, le truc là, c'est que les joggers, autant les joggers que les cailloux, Tu avais des formes que tu identifies facilement comme des unités dans des jeux de stratégie ou des choses comme ça. Et surtout, ça y ressemblait. Tu avais la scène de bataille de Hong Kong avec les trois joggers contre les deux. On te dit il faut défendre la base, mais tu n'as que deux unités qui sont surpuissantes.
C'est vrai que c'est assez stratégique.
C'est de la stratégie, alors que tu as deux trucs en face et... C'est bizarre, tu as un face-à-face et ensuite tu te retrouves à 2 contre 1, puis à 2 contre 1.
Mais je pense que c'est...
Ouais, et puis prends un navire pour taper sur la gueule du truc et moi je dis ça, c'est bien.
Oui, c'est vrai que c'était le truc de la bande-annonce.
Ça, c'est le truc.
C'est le truc de la bande-annonce qui, de suite, c'est... Non, c'est cette scène parce qu'elle fait pleurer de rire, voilà.
Moi, elle m'a fait pleurer d'héroïsme. J'ai trouvé ça une idée grandiose.
Moi, j'ai eu la larme à l'œil parce que je dis, oh là là, mais c'est trop bien. Parce que c'est vrai que dans ce genre de film, si à un moment donné...
T'avais le kiki tout dur alors, c'est ça?
Toi aussi, parce que j'ai vu que tu l'avais. Mais ce qu'il y a de bien dans ce genre de film, c'est que si à un moment tu te dis pas putain vas-y pète-lui la gueule à cet enfoiré, c'est que le film il est raté. Et
voilà, là, vous comprenez
ça au moins 15 fois dans le film.
C'est clair,
vous comprenez maintenant pourquoi je refuse d'aller voir un film avec Thomas, parce qu'autant il aime pas ma post-piste de commentaires, autant lui, on le voit sortir. Mais vas-y putain.
Mais oui, mais c'est très bien.
Et c'est pénible.
Sinon, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur le film, sur les références vidéoludiques. On n'a pas parlé de la mise en scène, mais c'est vrai qu'en matière de baston de robots, au revoir Michael Bay. Là, on voit qui est où,
qui est papa,
qu'est-ce qui se passe. On a un respect pour les designs qui sont créés parce que les robots, enfin les Jaeger, c'est pas du tout Transformers qui y a pas d'âme derrière. Tu vois que c'est carrément un personnage. Les façons de se rétablir après un coup, les façons de réagir du kaiju quand il donne un coup et quand il en reçoit, enfin c'est tout ça, c'est
il y a pas que ça, il y a la mécanique à l'intérieur, quoi. Tu le vois alors que
c'est analogique.
Alors que le Transformer, c'est le truc tombe, ah, c'est là, ouais, là, c'est là, un là. Truc en plastique, une maquette touillot en plastique, boum. Là, on, c'est non, ouais. Non, il y a.
Et puis on parlait des références tout à l'heure. On parlait des références en disant oui, il a pas voulu faire un film référentiel, puis on voit plein de références de jeux vidéo. Ah, je pense que comme c'est la, une des rares fois, une des premières fois que c'est assumé, c'est qu'il y a un geek qui fait ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nourrit aux comics, aux mangas, aux animés, aux jeux vidéo.
Ouais, c'est digéré,
donné,
quoi.
À un moment donné, c'est digéré. Tu sais, tu peux pas dire tiens ça, ça vient de là, ça, ça vient de là. C'est que ce sont des films et des références à la base qui se répondent les unes avec les autres. Mmh. Tu sais pas si ça, ça vient d'Evangelion, si ça vient de Pat Labore, si ça vient de...
On parle d'un cinéaste qui a réussi à digérer ses influences pour faire un vrai film avec. Je crois que Tarantino, il a regardé Pacific Rim ou pas?
Ah, il a des choses à apprendre, le mec. J'ai cru que tu allais me parler de Snyder. Donc c'est vrai que c'est
super
digéré.
On peut en parler, si tu veux, de Snyder.
C'est vachement digéré. C'est un peu la qualité qu'il y avait aussi dans ses films précédents. Dans Blade 2, tu savais pas trop si c'était un comic manga, si c'était un comic film, un manga movie, tu savais pas ce que c'était. Et puis à un moment donné, voilà, c'est digéré. Et puis c'est
bon,
enfin,
okay,
ce sont des films qui te parlent. Ce sont des films qui te parlent. C'est comme tout à l'heure, on disait, ben lui, il a la gueule de Halo. Et ben ouais, sauf que Halo, il s'inspire d'autres choses. Et puis d'autres choses, c'est inspiré d'autres choses. Et puis.
Merde, il fait le labyrinthe de Pan et il fait ça, quoi. Ben, alléluia, quoi.
Il y a une putain de truc de mise en scène. Le robot qui est échoué, qui arrive sur la plage par une scène de neige.
Ah oui, oui. Magnifique.
Magnifique. Et ben moi, j'ai immédiatement pensé à des dessins d'illustration qui avaient été produits pour Games Workshop, pour les jeux de plateau Warhammer 40 000. T'as exactement cette patte-là. C'est-à-dire, t'as vraiment une impression de peinture.
Mais Del Toro,
c'est flagrant.
Del Toro, dans ses interviews, il a dit qu'il avait donné comme référence au graphiste la vague d'Okusai et un tableau de Goya. Pour les batailles sous-marines. Donc voilà, il a dit voilà, moi je vous donne du Okusai, vous refaites ça, ouais. Donc on voit qu'il y a quand même et puis en plus quand tu vois les carnets de recherche de Del Toro, tu vois que c'est quand même quelqu'un qui connaît un peu la peinture.
Beaucoup. Ben, déjà,
rappelle-moi quelle est sa spécialité dans les effets spéciaux, Eddie.
Ben lui il faisait de tout, de A à Z, hein, la conception.
Il faisait
quoi.
Surtout de la prothèse et du maquillage. Enfin, mais il fait. Je crois qu'il.
Non, mais de toute façon, ça se voit. Tu le vois qu'un. Mais de toute manière, tu vois le travail sur Hellboy. Hein. Le premier, il s'intègre un peu Hellboy. Le deux, c'est un peu comme Batman le défi pour Tim Burton, quoi. Il se réapproprie complètement le matériau.
Oui. Puis en plus, d'ailleurs.
Et c'est pas anodin que même dans Pacific Rim. Alors, je sais pas. Peut-être que Xavier a dû le regarder. Je sais pas si Mignola est dans
consultant.
Le. Ouais, et consultant, mais
tu
sens qu'il garde toujours cette même patte au niveau
Il y a une filiation,
de la direction
ça,
photo,
c'est
etc.
Certain, hein. Oui, il y a une filiation graphique.
C'est des cases, quoi. Hein, ouais. C'est des cases animées. Hein, ouais. C'est exactement ça.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les références. Côté casting, puisqu'on va parler un peu de séries télé, puisque ce sont des acteurs qui ont un background derrière eux. Malgré le fait que le héros est un charisme d'huître, il a quand même fait des trucs un peu sympas derrière qui sont connus.
Henry Cavill s'en sortait un peu mieux dans le rôle de Superman. Hein.
Alors ouais. Ça, c'est l'une des choses que je t'accorde sur le Man of Steel. Effectivement, mais bon, contre, on part de loin. Hein.
Mais putain, mais les gosses, quoi.
tu parles du général. On parle pas du général Zod, parce que sinon, là, on va rigoler. Bon, donc le héros. Bon, alors, le temps que du sport se serve un verre.
Non, tu peux y aller, vas-y.
On va,
un verre de
on
quoi
va quand même un
jus à fruits.
Voilà, on va parler un peu de Ron Perlman parce que c'est obligé. Il a un rôle, mais à se poiler dedans parce que c'est un rôle purement comique. Un rôle qui sert à rien, hein, on va être honnête. Même à part le fait qu'il. Moi aussi, j'ai fait des trucs bizarres, mais on va pas dire ce que c'est parce que sinon on spoil. Il fait un petit peu avancer l'intrigue, mais pas trop hein, non plus. Un gag qui sert de gag à la fin du générique, donc rester après la fin du générique, c'est
merde,
drôle.
Un truc.
Entre à contrat.
Non.
On te racontera en off.
D'accord.
Voilà, donc Romperman magnifique. Contrebandier de Hong Kong avec des chaussures. Mais des chaussures de Romperman qui ont monopolisé, je suis sûr, pendant des jours des designers pour trouver ces chaussures-là.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Idris Elba, j'étais tombé sur un article sur internet qui disait qu'il avait bouffé du charisme au petit déjeuner et qu'il nous le resservait à chaque réplique.
On a lu le même article et il est monumental. D'ailleurs, c'est pas assez. Enfin, c'est lui qui véhicule tout le côté épique finalement du film et tout ce qui va être annoncé derrière, sans spoiler. Mais
oui,
sa phrase dans la bande-annonce en VO.
The Week Cancels the Apocalypse.
Ah, ouais.
D'ailleurs, c'est son discours à la Bill Pullman dans Independence Day.
Ouais.
C'est le discours fédérateur.
Oh non.
Il y a la réplique qui dit à.
Bah non, mais c'est toute une culture dans le film de guerre.
Hein, on a parlé de Godzilla, Independence Day.
Et je vais t'en rajouter une parce que je vais te dire Patton. Simplement, c'est vraiment le premier film où tu as le grand discours du meneur de guerre et tout ça, sauf que c'est un discours qui est froid et tout sur l'immense drapeau américain. Et après, c'est quelque chose qui est resté. Il a toujours fallu que dans le grand film de guerre, il y ait le grand discours pour motiver les troupes et tout ça.
Ah bah là, Mais là, il interprète un Marshall, donc ça renvoie encore une référence de Del Toro qui s'est pas mal inspiré du western. Voilà. Moi, j'ai particulièrement aimé son discours quand il remet à sa place le héros et qu'il dit ah non, il faut qu'on en parle, je te rattrape par le bras, et puis
ouais,
il lui fait le discours qui remet tout à sa place. Tu t'entends rien dans la salle parce que d'accord, faut pas le faire chier. Donc Idris Elba,
quoi.
Voilà. On a donc le héros, dans quoi il a joué le héros? Je crois qu'il a joué dans une série avec Ron Perlman d'ailleurs.
Ouais, Son of Anarchy d'ailleurs. Ouais, bah, il joue le rôle du fils. C'est le fils, hein, Charlie Hunnam, c'est le fils de.
De
Ron Perlman avec comment elle s'appelle, Cathy Sagal qu'on connaît mieux dans Marié deux enfants.
Oui. La d'accord. Femme, donc on avait deux personnes du cast de Sons of Anarchy
et qui est bien conservé d'ailleurs. Hein, pour son
comment t'as dit la série parce que à chaque fois tu me l'as dit de la même façon. Vas-y, comment elle s'appelle la série?
Hein, quoi?
Xavier, c'est et le Charlie... de Sons of Anarchy. Quand même.
Ah. Alors, Son of Anarchy et Charlie Hunnam, il a été découvert en Angleterre dans la série version anglaise, donc originale, de Queer as Folk. C'est lui qui joue le rôle du petit jeune ingénu qui arrive et puis qui va se faire embringuer dans cette histoire d'homosexuels qui font la fête, enfin bon, et des histoires, mais très
donc,
très bien
du sport
foutu,
a été
série,
très soft,
au
et il a dit
contraire de la
se
série
fait...
américaine.
Du sport a été très soft, il a pas dit qu'il se faisait ramonner la quenelle, qu'il se faisait
des mais c'est pas possible, il y a des jeunes qui nous écoutent.
Voyons, non, mais je trouve que voilà, là,
mais
on
y a
parle
pas que
de
ça,
sexe,
quoi,
de religion, c'est vraiment une émission de con.
C'est n'importe quoi.
C'est interdit, ça.
D'ailleurs, on a perdu Corentin, il nous.
Bon, ok, après Charlie Hunnam, mais Idris Elba et Perlman, qu'est-ce qu'on a encore?
On a Rinko Kikuchi, actrice qu'on avait pu voir dans Babel de Inaritu, qui a vu des prix d'ailleurs.
Wow.
Ben, on a déjà parlé de Burn Gorman de Torchwood, donc qui fait le scientifique, on va dire, intello dans le film et handicapé.
Il a souvent des rôles d'ailleurs de méchants. On l'a vu dans The Hour, pardon, en tant qu'espion. On l'a vu à chaque fois, il a vraiment un rôle assez evil. Et là, il le fait très très bien. Il est juste impressionnant.
On nous signale en régie que Charlie Hunnam, c'est le beau-fils de Perlman. C'est pas son fils.
Les geeks sont tatillons. Hein. Tu vois, c'est comme avec le costume
raison,
de Superman de Man of Steel, tu sais.
Oui,
on y revient.
Pas slip ou pas slip.
Voilà, slip ou pas slip.
C'est vrai.
Et
le fait qu'il tue des gens sans...
Oh non,
avoir rien à
non,
ouais.
Non.
Bon,
voilà. Donc, okay. Ce qu'on pouvait dire du cast, on a tout parlé. J'espère que du sport.
On a tout dit.
Tout est dit.
J'espère que du sport, que au contraire des autres émissions spéciales précédentes, que nous ne t'avons pas trop déjà spoilé et embrumé la tête avec ce film. J'espère que tu as tout compris. Voilà. J'espère qu'on t'a surtout quand t'as donné envie de voir le film.
Ouais, peut-être.
Bon.
Est-ce que vraiment... Non, franchement, c'est un film, ok, il est sympathique, mais après, tu vas bouffer une pizza et tu te demandes ce que t'as vu 2 heures auparavant.
Ah non, moi, je suis pas d'accord.
Non, moi, je suis pas d'accord.
Moi non plus, je suis pas d'accord.
Non, là, j'ai plein d'images dans ma tête, alors que j'ai vu il y a un mois. Je me souviens avoir
C'est vrai que la qualité picturale pour ce genre de film est très impressionnante.
Moi, je me souviens... Je pense que c'est vrai que c'est pas un chef-d'œuvre. C'est peut-être le film de l'année sur certains points, on va dire, sur certaines catégories. Après, ça va compter dans la filmo de Del Toro. Après, tu prends un pied énorme devant si tu es...
Meilleur usage en tout en longueur du même gimmick musical.
Ouais, après si tu es un spectateur mâle, fan de grosses bébêtes et grosses mécaniques, un peu steampunk et que t'as rien contre la SF avec des gros monstres, et voilà, je pense
c'est que... C'est un film d'été, ça remplit son contrat, point.
C'est vrai que c'est un film, tu débranches le cerveau, tu regardes et puis tu
prends... Voilà, et c'est bien fait.
C'est
bien fait.
Voilà. Tu vois, je vais te faire crier, mais bon, les films de l'été, début de l'été, t'as le dernier Fast and Furious, c'est à ça, voilà.
Tu viens de t'étendre, t'en prends plein la gueule. Non, non, pas du tout.
Voilà, disons-le, quoi. Enfin...
Je te tiens, il y a Yogi et Cafard qui arrivent aussi. Ça...
Ah oui.
Ça, par contre, tu vas...
là, il y a des... Ouais.
Là, c'est, tu débranches la
On rigole plus, là.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Pacific Rim. On espère vous avoir donné envie de vous coltiner du kaiju, de vous coltiner de la série de mecha. On espère qu'on vous a donné, qu'on a su vous faire ressortir tout le plaisir qu'on a vu à voir le film. Donc voilà, gloire à Guillermo del Toro. On espère que vous allez vous refaire certains de ses galettes. On va essayer de recommander quelques films qu'il a fait avant. Donc si vous connaissez pas forcément les deux Hellboy, c'est obligé, sachant que le 2 est meilleur que le 1. Si vous aimez du film poétique, Le Labyrinthe de Pan est parfait. Par contre, faut pas être dépressif avant parce que c'est assez mélancolique. Vous avez avec un très bon Sergi Lopez dedans. Vous avez, si vous aimez les petits films indépendants, vampiresques, Chronos est parfait aussi.
Voilà. Et puis, il y a 1€ dans tous les bonnes crèmeries, genre Carrefour, en voilà. DVD.
Leclerc et Auchan.
Yoshimi Battles The Pink Rainbow Part 1 par les Flaming Lips. Et bien en coupure musicale, voilà.
On voit.
Un petit peu de poésie.
Yeah.
The Flaming Lips, Yoshimi Battle, The Pink Robots. C'est le supplément week-end sur Radio FMR et ma foi! Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries! Oh grand maître de la zapette sacrée, dis-nous qu'il y a encore du monstre caoutchouteux prévu sur Sci-Fi, sur, sur FX sur W9.
Oui, mais c'est le vendredi.
Parce que le plastique c'est fantastique.
C'est le vendredi.
C'est super doux.
Ce soir sur Canal Plus Cinéma, Prometheus. Alors ils sont pas en caoutchouc, mais enfin bon, il y a quand même quelques monstres et
oh
des
non,
trucs comme ça.
Non, Prometheus, j'avais dit, il est pas encore parti, merde.
Je remets mon casque.
Je remets mon casque. Ce soir également sur Ciné Plus Premier à 20h45, Abîme de David Towie en 2002. Ah, bah voilà.
En parler, voilà.
Bruce Greenwood dans un sous-marin, ça te dit?
Oui, moi ça me, moi, dit, ça me parle, c'est génial.
Dès que c'est Bruce Greenwood, de toute façon ça parle.
Je pense que point de vue scénario, on a atteint les grands fonds.
Et Matt Davis.
Non,
sinon
ça,
sur Ciné Plus classique, deux films de guerre. Hein, tout d'abord à 20h45, La Gloire et la Peur. C'est un film de guerre des ricains avec, qui se passe en Corée. Un film de Lewis Milestone. Lewis Milestone qui a fait en 1930. Rappelez-vous, c'est un gros succès en librairie. Puis après le film à l'Ouest à nouveau a fait également un gros succès au cinéma, et Milestone il a fait plein d'autres trucs, il a fait l'adaptation des souris et des hommes, des trucs comme ça. Et là-dedans, il y a Gregory Peck, Harry Guardino, George Peppard et Rip Torn. Haha, quand même, hein. Et à 22h20, Enfant de salaud, là ça se passe dans le désert africain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film d'André de Tott, c'est son dernier film d'ailleurs, à André de Tott. Hein. Il était rentré en Europe début des années 60, avant il avait passé ça. Carrière aux États-Unis, c'est un ex-immigré hongrois, Andrés Tott, qui s'appelle de son vrai nom. Il a également fait les Mongols, le film avec Anthony Quinn. Eh ouais, rappelez-vous. Et là-dedans, donc, on retrouve Michael Caine. Alors, c'est un film anglais, donc casting anglais avec Michael Caine, Nigel Green, Nigel Davenport et Harry Andrews. Et sinon, sur TCM également ce soir. À 20h40, L'homme qui aimait la guerre, ouais, de Philippe Leacock. Alors le film est dispensable, on va dire, mais il y a quand même Steve McQueen dedans. Voilà, c'est tout. Demain, sur Arte, à 20h45, Shaft, le film original de Gordon Parks, donc avec Richard Roundtree. C'est la soirée Summer of Soul, avec après un documentaire sur Detroit, Michigan. À l'époque, il a été fait le documentaire, la ville n'était pas en faillite, mais maintenant elle est en faillite officielle. C'est bien fait pour votre gueule. De toute façon, j'aime pas la Motown. Par contre, à 23h20,
c'est
Memphis, Tennessee.
Gratuit,
non, pas
c'est
du
bien
tout.
Placé. Hein,
Memphis, Tennessee, là, 2011, bah, là, ils sont pas en rupture de stock pour l'instant. Et ils continuent à nous fournir de l'excellente musique. Demain, toujours sur Ciné Plus Star, à 20h45, La Fureur du Juste d'Eric Carson avec Chuck Norris. Allons. Ciné Plus
enfant,
FX,
hein.
Demain à 21h, Les 7 Vampires d'Or de Roy Howard Baker avec Christopher Lee et David Chiang. Attention, mm-hmm. Attention,
ah
quand
oui.
Même.
Ah oui.
Ah oui, quand même.
Il y a un baston, là.
Le film, il est pas terrible du tout.
Oui,
mais il y a Christopher Lee et David Chiang. C'est la rencontre, quoi, tu vois, quoi, qui motive le fait de voir le film. C'est tout. Mais après, t'es un peu déçu quand même, quoi. Mais bon, sur OCS Nouveau également, demain soir, 20h40, THX 1138, le film de George Lucas.
Qui voulait être un auteur.
George qui
George Lucas, avec Robert Duvall, Donald Pleasance et tout ça. Quoi. Enfin,
bon. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du dernier Star Wars. Hein.
Ensuite, lundi sur Comédie, Eddie Izzard, ça a été enregistré live à La Cigale en 2011, il y a 2 ans. Et Eddie Izzard, bon, vous le connaissez, il fait un petit peu l'acteur. Bon acteur, mais c'est surtout un humoriste qui fait des one man show et des trucs comme ça, qui anime des émissions en Angleterre, et là il te fait le show en français, ça s'appelle Strips, tout en français, et le mec il te bluffe parce qu'on connaît la difficulté qu'il y a entre bon, l'humour anglais, l'humour français et la façon de traduire les vannes de telle manière à ce qu'il y ait le même état d'esprit, le même truc, c'est très très difficile. Et là, bah lui, il te fait le truc et il te bluffe carrément. Mais alors, tu restes carrément sur ton derrière. Vraiment, quoi. C'est assez incroyable quand même, quoi. Mais bon, ça montre vraiment le talent du personnage, hein, de toute façon, quoi, de Eddie Izzard. Donc, alors ça, c'est lundi sur Comédie à 20h45. Ça dure un petit peu plus d'une heure, 1h10, un truc comme ça, quoi. Mais c'est bluffant. Vraiment, franchement, c'est bluffant. Lundi sur Ciné Plus Premier, Warrior de Gavin O'Connor avec Joel Edgerton, Tom Hardy. Nick Nolte et Jennifer Morrison, un film militaire avec de la boxe dedans.
J'ai pas vu ça, il m'intrigue.
Et sur Ciné Plus Classique, Les Hommes Contre de Francesco Rosi avec Alain Cuny, Marc Fréchette et Franco Graziosi, encore un film de guerre, mais anti-militariste on va dire, plutôt. Sur TCM, c'est lundi toujours, Ne vous retournez pas. De Nick Rugg. Alors Nick Rugg, vous le connaissez parce que c'est le mec qui a fait Performance, le film avec Mick Jagger dedans et James Fox, ouais, pas Edward, et qui a fait également L'homme qui est tombé sur la terre, le The Man Who Fell to Earth, avec David Bowie dans le rôle titre. Et Nick Rugg, en fait, c'est surtout un opérateur anglais, quoi, qui a fait quelques films. Son premier film, c'est donc Performance en 69. Et il a déjà plus de 40 balais, le mec, si tu veux, quoi. Et bon, bah, il a fait que ça. Il a encore tourné en 1980, dernier Petit Polar, hein, qui est passé inaperçu, bien sûr, comme le reste ensemble. Et donc, ce Ne vous retournez pas, dont l'intrigue se passe à Venise, avec Donald Sutherland, Julie Christie, et c'est adapté d'un roman de Daphné du Maurier. Donc, c'est sur TCM.
Et avec
lundi.
Des nains.
Hein? Non, il n'y a pas de
avec des nains.
Avec des nains.
Non. donc, ça, c'est lundi, donc, sur Action. Mardi. Sur RTL9, le Star Trek 5, celui réalisé par William Shatner, l'ultime frontière. Ouais.
Encore.
Et
c'est pas sur... celui où on voit que la partie génitale de monstre, c'est sur le genou.
Ah bon, je sais pas.
Si, je crois, ouais, oui. Il y a une scène de bagarre. Il y a une scène de bagarre, oui, dans un bar louche sur la planète désertique.
Et donc il met un coup de pied dans les parties, mais en visant le genou.
Alors c'est une planète désertique, tu trouves quand même un bar.
Ouais, ouais, non, mais c'est sympa, important, quoi. C'est important.
Quand même. Ouais, c'est sympa, quoi.
Pour... C'est important. C'est important. Alors, non, mais tu vois, ça,
en plus,
c'est
le bar...
une idée de scénariste quand même, c'est quand même génial.
Et en plus, c'est l'arrière du bar qui est la représentation officielle de l'Union Galactique, un truc comme
non, mais
ça.
Je vois bien les prods à l'époque. Mais c'est désertique. Non, non, t'inquiète, on a mis un bar. Ah,
non, non, mais c'est surtout William Shatner, hein, on a mis un bar.
Ouais. Oh, allez, bon. Oh là là là.
Bon, ça c'est à propos de Star Trek. toujours mardi sur Energy 12, pour vous familiariser avec la hype belge qui est en train de flamber en ce moment. Un petit Dickeneck de Van Hofstadt avec François Damiens, Dominique Pinon et Jérémy Régnier, qui est pas mal, qui est sympathique. Ou sur D17, alors là, c'est un petit peu plus porte-nawak, on va dire, mais ça tient quand même la route, faut le dire. Opération Matchbox de Colin Tigg avec Laurence Fox, le mec que tu vois avec l'inspecteur Lewis. Tu vois, le blond, là, comme ça, quoi. Celui qui est...
Il n'est pas série anglaise, Thomas.
Non, non, celui qui est maqué avec Roddy Piper, avec...
Docteur Who.
Piper, là.
Ouais, Roddy Piper de... Ouais. Non, pas voilà. Roddy, c'est Billy. Roddy Piper,
Billy
c'est
Piper, voilà.
Ouais,
Billy Piper, voilà.
Ouais,
il a même, il y a même fait un enfant, tu vois, pour te dire. Oh, voilà, Fox, donc. Et là, dans ce film qui date de la... Enfin, qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, en juin 44, pendant
la
libération,
hein.
Il y a également Billy Zane, Michael Madsen. Ouf. Et David
Ginola. Michael Madsen.
David Ginola.
Et David Ginola.
David Ginola.
Ah, ça c'est du
David Ginola et Michael Madsen dans le même
ça,
film.
Ça, c'est
t'as
pas mal.
Il a fait l'impasse sur tous les Steven Seagal qu'il y a sur Energy 12, hein, quand même. Hein.
Attends, ça va venir.
Enfin.
Attends, ça va venir, quoi. mardi.
C'est jamais le lundi de Seagal.
Mardi, sur TCM, soudain l'été dernier de Mankiewicz 159 avec Liz Taylor, Catherine Hepburn et Monty Clift. Alors, Liz Taylor, c'est la. La tante qui veut faire lobotomiser sa nièce, Catherine Hepburn, parce qu'elle a vécu un grave incident.
Il faut
parce que son cousin est mort. Mais le psychiatre joué par Monty Clift, il va essayer d'en empêcher tout, quoi, s'étirer.
Ah, c'est le psychiatre, parce que d'habitude, c'est vraiment eux qui veulent lobotomiser
non.
Les gens.
C'est donc tiré d'une œuvre de Tennessee Williams, bien sûr. Et le film est magnifique. Sinon, sur Action, pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de film, il y a Cyborg d'Albert Pyun avec
voilà, l'été. On y arrive,
un peu plus
films.
L'été. Mercredi sur Arte, The Hunter, un polar iranien de Rafi Pitz avec Rafi Pitz dedans et Mitra Hayar et Ismaël Alani, un polar assez récent qui date de 2010. Sinon, toujours mercredi, RTL9 vous propose Police Academy 4,
le meilleur.
Celui où, c'est le dernier où il y a Steve Guttenberg qui joue dedans et il y a Sharon Stone dedans ainsi que David Spade, enfin des trucs
Thomas
comme ça quoi.
Oui,
voilà, ça c'est mercredi prochain. Energy 12, justement, on y vient.
Ah, merci.
Bonne soirée de films C ou B ou D ou E, de baston. Ouais. Avec tout d'abord, bon, celui-là j'ai déjà vu 50 fois, 20h50, Dangerous Man de Connie Waxman avec Steven Seagal, qui annonce un petit peu l'Urban Justice et tout, la série qu'il a fait après et tout, quoi, où il en fout pratiquement plus une rame, il dit allez me faire ça et puis les autres ils le font à sa place. Mais après, il y a quand même Game of Death de Giorgio Serafini avec Wesley Snipes, Zoé Bell, Robert Davi et Gary Daniel.
Voilà un bon
ah
double
oui ah ouais, voilà pas bon mal, gars. Pas mal, pas mal donc, pas mal. Et c'est pas mal en fait.
Mais oui,
en
c'est
plus
bien.
Quoi. TCM vous propose Poker Das pour Django de Roberto Bianchi Montero avec Maurice Poli et Jacques Hermin. Spaghetti, bien sûr. Mm-hmm. Toujours Rital, mais là c'est plus un film de guerre sur Action. Mercredi prochain, 20h40, Deux salopards en enfer de Tony Ricci avec Klaus Kinski. Et George Hilton, ça vaut le coup pour Klaus Kinski parce qu'il est pas mal. Bon, il change pas souvent de gueule, ouais. Mais rien que le fait qu'il ait sa gueule comme ça, et tout, l'autre qui lui cause, et puis il comprend, il a même pas besoin de rire.
Rassure-moi, il joue un nazi quand même. Hein,
non,
c'est
non,
le
non.
héros.
C'est une patrouille américaine pendant l'invasion de l'Italie, et puis bon, ils se retrouvent dans un village où il y a quand même des snipers, des trucs comme ça. Mm-hmm. Ils doivent juste protéger juste une petite région, enfin un petit
donc
endroit.
C'est,
et tout,
c'est un américain.
Ah oui, oui, oui.
Et
oui.
C'est un héros, c'est
ah,
génial.
Oui. Ah oui, oui, oui. Non, mais bon.
Qui est en héros, rien que pour te regarder.
Eh oui. Ou alors sur OCS Géant, il y a encore du spaghetti avec Adios Gringo de Giorgio Stefani et avec. Surtout Giuliano Gemma.
Sur OCS, ils ont lancé le mois spaghetti.
Ouais.
Ça donne envie de bouffer des pâtes quand même.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Penne, carbonara. Ouais.
Après le film dont je vais vous parler, peut-être pas. Jeudi sur Syfy, 20h50, Méga Python versus Gatoroid
enfin,
de Marie Lambert.
Enfin du cinéma, quoi.
Avec Deborah Gibson, Tiffany et d'autres. Mais alors, j'ai regardé la distribution, il n'y a que des nanas. Alors, c'est pour t'expliquer le genre de film.
Et il n'y a même pas Casper Van Diem dedans.
Non,
parce qu'il aime
que
bien
dalle.
De film.
Non, que dalle. Il vient
tu
plus tard, lui. Toujours jeudi sur Polar, Following, le suiveur de Christopher Nolan en 98. Curiosité, un petit film comme ça.
C'était avant Memento, ça, non?
Ah, bah oui, bien avant.
Hein. C'est pas sur Twitter.
Anglais donc avec Jeremy Theobald et Alex Howe. Le pitch est très simple, c'est un type qui a l'habitude de suivre des inconnus dans la rue et d'un seul coup il va tomber sur un mec qui va commettre une action illicite. Que va-t-il faire? Voilà, il faudra voir le film. Donc,
il ne faut pas cracher Polar. De chewing-gum sur le trottoir.
Sur Polar donc jeudi prochain à 21h.
Non.
On termine avec vendredi, RTL 9 vous propose à 22h30 une séance de rattrapage, La colère de Caen. Nicolas Meyer avec Ricardo Montalban dans le rôle de Caen, hein, bien sûr. Quoi.
Ah, mais c'est pas le.
Ah non, l'original.
Je croyais que c'était Star Trek 2, La colère de Caen. Mais
Bah oui, c'est
oh
ça, c'est Star Trek 2. Ouais.
Oh, mon Dieu.
Ah, bah voilà. C'est le 2, oui.
Ouais, si, parce que t'as dit La colère de Caen, alors je me suis dit, ça va être la
c'est
ville
comme
en
Normandie.
Non, non, Caen, la ville.
Oui, la ville en Normandie.
Caen, non, Caen.
Ça va aller, Thomas, ça va aller.
Ça va aller. Ouais. Sur Ciné FX, la séance du vendredi, film de Inoshiro. Honda,
ouais.
Ghidorah. Alors, tu connais Ghidorah, toi?
Non.
Hey,
putain,
c'est un dragon
non,
à trois têtes. Eh hey, oui, c'est
et
un
et
dragon.
Non, il connaît pas.
Eh hey, non, c'est comme l'Isle de Lerne, mais avec déjà quelques têtes coupées. Action vous propose à 21h 7 Winchester pour un massacre de Enzo Castellari avec Guy Madison, ouais, Ed Burns et Louisa Barato sur OCS Choc. Zombie Apocalypse de Nick Lyon avec Wim Reims.
Il garde le bien pour
et on termine avec Océan Géant.
C'est tellement prometteur comme
un autre film de Pierre Etex, Yo-Yo, avec Claude Inogé et Pierre Etex, bien sûr.
Et là, c'est la chute.
Yo-Yo.
Yo-Yo.
Oula, excusez-moi.
Ah ouais.
Excusez-moi, je voulais envoyer des samples et du coup c'est parti tout seul. C'était le mauvais, c'était ça que je voulais passer avant. Zou. Voilà, c'est parti.
Renversement.
Ouais, ils appuient pas sur les boutons, ils gueulent très fort parce que la reconnaissance vocale est sourde. Je me rends compte que ceux qui ont moins de 35 ans, ils ont aucune chance de connaître, ça va être difficile.
Alors,
Donc ça veut bien dire que quand la lune est rousse ou quand la bière est rousse, et ben on commence à voir les extraterrestres qui attaquent et tout.
Ouais.
Non.
Non, il a raison. Tu sais que j'y fais encore gaffe, moi, ça, quand je sors, quand je vois la lune rouge et tout ça. Non.
Tu penses à Goldorak?
Non, mais je pense que c'est un signe de mauvais présage. Mmh. Tu vois, les Golgoths vont arriver, tout ça, donc...
Ou les Kaiju.
Ou les Kaiju.
C'était le supplément week-end.
Et ça arrive alors?
Ou du sport qui sort de la salle de ciné en ayant vu Pacific Rim, le sourire aux lèvres, tu vois.
Ah, moi, ah oui, parce qu'il fait... sa chemise, ça.
Ouais. Ce qui me fait peur, c'est un mec qui bondit en plein milieu dans la salle et qui dit « Mais vas-y, putain, t'en sauras !»«
Mais vas-y, t'as l'épée, quoi !»
Bref, c'était le
film. Il est analogique, le Jaeger.
Et nucléaire.
N'aie pas peur.
Bordel, mais c'est moi le Juggernaut, bordel.
C'était le super week-end numéro 356 du 3 août.
356.
Ouais, déjà. Ouais, ouais.
356 émissions.
C'est parce que c'est bénévole, non, que ça va jusqu'à 356.
Ouais, mais je crois que...
Ouais.
Non.
Bah,
je crois que même en étant bénévole, quand même, c'est difficile. Hein,
pour la 300e, on était en slip. Non, c'est pas vrai.
D'accord. Merci Thomas.
Non, mais on gueulait Sparta et tout ça, c'était une horreur, c'était un bordel.
C'est vrai qu'on a fait 56 émissions depuis la 300e.
Ouais, ouais, et ça veut dire aussi que vous faisiez une référence à un film de Snyder. Donc moi, je dis ça, je dis rien. Quoi.
Oh ben, ça va.
Voilà. Bref. Des masques.
Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Ah bah oui. Hey. Bonjour et bienvenue. C'est Radio FMR. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode?
Bonjour et bienvenue dans le prochain
bonjour.
Épisode. Salut.
Salut.
Ah oui, non mais je dis bonjour pour c'est ceux qui arrivent et pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission en entier. Il faut bien que quand même ils aient une chance.
Alors c'est
qu'on leur dise bonjour.
Alors là, la question c'était qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Et la semaine prochaine nous sommes encore là. Moi je ne sais pas de quoi.
Batman.
Ouais, moi je pense que je vais parler de. J'ai plein de BD en retard à vous parler. Je pense que ce sera trop tard pour vous parler de World War Z que j'ai vu, mais j'ai essayé de voir un autre film d'ici là.
Je connaissais pas comme réalisateur.
Ouais.
D'ici là, ouais. Ici là, c'est il a fait quelques films indépendants. Mais
c'est un concept, j'aime bien.
J'aime bien, ouais.
D'ici là, oui.
Sinon, évidemment, je n'ai pas fait le résumé d'émission pour ceux qui nous ont pris en cours de route, puisque c'était un joyeux bazar et que les multiples interventions m'ont empêché d'en faire un. Mais sinon, vous pouvez retélécharger l'émission en podcast.
Et ainsi que voir
la clé USB sur mes verres de lunettes soleil.
Ah, pardon, excuse-moi. Mais ainsi que voir toutes les références dont on a parlé, mais aussi celles dont on n'a pas parlé, puisque c'est vrai qu'on aurait pu causer de Pulgasari, on l'avait annoncé qu'on en parlerait. On
ah oui, oui, non, mais c'est vrai.
Donc le film de Kim Jong-il, voilà, qui est un film de monstre.
Et on aurait pu parler de Man of Steel aussi.
On aurait pu en parler.
Non,
et
non,
alors,
non,
je
non,
peux
non,
vous
non,
re...
Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée des programmes.